En octobre 2022, le JIP France Tiers-Lieu et l'Association Nationale des Tiers-Lieux organisaient Faire Tiers-Lieu, la première rencontre nationale des tiers-lieux. 4 jours pour donner à voir ce qui se joue dans les tiers-lieux et les transitions qui y sont à l'œuvre. 4 jours pour nous retrouver, nous rencontrer. Nous avons pris le temps des débats, de libérer la parole, de croiser les points de vue et d'assumer notre diversité. Nous étions plus de 800 acteurs du mouvement des tiers-lieux réunis dans le tiers-lieu Blida à Metz. Les participants sont venus de toute la France pour participer à 12 tables rondes participatives pour aborder les transitions portées par les tiers-lieux et les défis du mouvement. Plus de 30 ateliers collectifs, espaces de partage entre pairs et temps de travail sur des chantiers communs, 28 témoignages inspirants et 9 groupes de travail de l'Association nationale des tiers-lieux. Faire tiers-lieux nous a permis de faire le point et d'écrire ensemble la suite de l'histoire des tiers-lieux. Nous vous proposons de redécouvrir en 5 épisodes les débats qui nous ont réunis au sein de l'Agora des tiers-lieux, créée pour l'occasion. Les tiers-lieux sont-ils des services publics? Peut-on vraiment faire écosystème? Quel équilibre entre exploitation des bénévoles et subordination des salariés? Faut-il institutionnaliser les tiers-lieux? Lucratif ou non lucratif? Quelle est la valeur des tiers-lieux? Autant de questions qui traversent notre mouvement et ont animé nos échanges. Épisode 5. Où serons-nous dans 5 ans? À quoi serviront les tiers-lieux? Avec qui travailleront-ils? Comment les tiers-lieux auront réussi à évoluer et pousser les barrières qui se dressent sur leur chemin? Dans cet épisode, les participants de Faire Tiers-lieux s'expriment sur l'avenir du mouvement des tiers-lieux.
Moi, je suis Annick Géane, je pilote Plateau Fertile, un tiers-lieu modé textile à Roubaix, à Paris. Et je me suis posé quelques questions, aussi en échangeant avec pas mal de monde hier et avant-hier. Voilà, donc je vais vous poser les questions que je me pose. Et puis après, j'espère que vous en aurez plein d'autres. Le sujet, c'est on est où dans 5 ans ou 10 ans? Donc moi, je me suis demandé, dans 5 ans, qu'est-ce qu'on souhaite comme société, les tiers-lieux déjà, voilà. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme société ou avoir contribué à construire comme société? Ça, c'est la première question que je me suis posée. La deuxième, c'est à quoi on sert dans 5 ans ou dans 10 ans? C'est quoi les utilités communes auxquelles on doit s'attaquer ou sur lesquelles on doit travailler ou qu'on doit inventer? Je ne sais pas. La troisième question, c'est avec qui on travaille? Avec qui on fait tout ça pendant 5 ans ou 10 ans? Ensuite, c'est comment nous, les tiers-lieux, on a réussi à changer ce que l'on critique? Parce qu'on est des espaces très divers, très ouverts, avec plein d'opinions, et tant mieux. On n'est pas d'accord sur des trucs, on veut d'autres trucs. Voilà, on est fort heureusement des lieux critiques. Donc comment on change ce que l'on critique? Et ensuite, la dernière question que je me pose, c'est comment on est un poids incontournable? C'est-à-dire comment on peut réussir à ce qu'on ne nous oublie pas, à ce qu'on ne nous éjecte pas et à ce qu'on nous considère comme extrêmement important? Comment on fait? Voilà. Moi, c'est les questions que je me suis posées. Voilà, et puis on va... Voilà, on va en débattre et je passe la parole à Ophélie qui elle-même aussi va peut-être nous dire Ophélie, c'est quoi dans 5 ans? Qu'est-ce qui se passe?
Alors moi je me quand sur cette question on est où dans 5 ans, moi je me suis surtout dit où je ne voulais plus être et où j'espère qu'il y aura où on sera, où les tiers-lieux ne seront plus, et donc j'espère que dans 5 ans on sera plus dans la survie. Parce que c'est quand même ce que beaucoup d'entre nous avons traversé ou traversons, et que donc on est plus dans la survie, et on a gardé l'enthousiasme et l'énergie dont on a fait preuve, je pense, ces 2 derniers jours. Et donc la question, c'est comment, en effet, dans 5 ans, pour plus être dans la survie, pour plus être dans certes, la projection, le changement, c'est quoi le monde de demain? Mais sauf que on est tous englués, enfin toutes et tous à plus ou moins grande échelle, mais dans des problématiques hyper concrètes de foncier, de financement, d'épuisement des uns et des autres, et qu'il faut avoir et qu'il faut gérer ça avec en même temps justement l'enthousiasme et l'énergie que nécessite l'envie de transformation qu'on porte, et ben à mon avis, pour que dans 5 ans on soit plus tiraillé entre ces deux pôles de à la fois la survie tout en gardant l'enthousiasme, et ben ça veut dire qu'on est encore plus allé vers les collectivités, le public, les institutions, les partenaires, les entreprises, en montrant ce qu'on fait, en les transformant eux aussi de l'intérieur, et qu'on fait tiers-lieu ailleurs que dans nos lieux.
Vas-y.
Bonjour. Je sais pas si ça marche. Oui, c'est bon. Dans 5 ans. C'est une forme de, un peu de, le rêve entre, un mix entre la perspective, l'utopie et aussi un peu de programme réaliste de ce qu'on pourrait imaginer dans 5 ans. Dans 5 ans, peut-être qu'on aurait évité l'extrême droite, ce serait déjà pas mal pour commencer, et qu'on y aurait pris toute notre part. Plus sérieusement, je me dis que peut-être qu'une perspective qu'on pourrait avoir et qui pourrait être celle de la NTL notamment, ce serait d'avoir porté, accompagné, soutenu l'émergence d'une grande loi sur les tiers-lieux. Une grande loi sur les tiers-lieux pour lever les freins à leur développement, pour embarquer de nouveaux ministères, pour embarquer les consciences et pour sécuriser aussi le cadre de développement des tiers-lieux. Je pense que ça pourrait être une ambition, en tout cas curieux de pouvoir en discuter avec la salle. Dans 5 ans, un peu comme l'a dit Ophélie, on pourrait espérer effectivement avoir des tiers-lieux qui ne sont plus dans la survie, mais qui ont un modèle économique, qui ont des capacités pour se développer, qui en même temps portent une utopie réaliste et un modèle social et politique qui reste pertinent et qui embarque une grande diversité d'acteurs, des citoyens, des élus et une grande diversité de gens. Et enfin, peut-être pour conclure et pour ouvrir le débat, je me dis que dans 5 ans, on aura gagné aussi si le mouvement tiers-lieu finalement fait tiers-lieu effectivement un peu en dehors et devient un véritable acteur de coproduction des politiques publiques, pas seulement sur la question des tiers-lieux, mais finalement devient l'acteur naturel pour parler climat, pour parler territoire, pour parler social, pour parler culture, pour parler développement des territoires et développement du pays, bien au-delà de la question tiers-lieux et des intérêts des tiers-lieux en tant que tels.
Merci. Merci Arnaud. Arnaud qui ne s'est pas présenté, qui est qui, dans le réseau régional des tiers-lieux de Bretagne. Moi j'opère un tiers-lieu qui est... Alors c'est pas reconnu tiers-lieu tout de suite. Pour moi, effectivement, nous on est à Dijon, on travaille autour de la mobilité, du vélo, avec une communauté, et finalement on fait tiers-lieu. Le sujet des tiers-lieux, effectivement dans 5 ans, ce qui serait bien, c'est qu'on ne soit pas complètement institutionnalisé. On est reconnu, on commence à être reconnu, mais beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est un tiers-lieu, et on a quand même une institution en face de nous, des institutions, un État qui souhaite avoir des définitions, mais une fois qu'on aura défini, on sera dans des cases, et une fois qu'on est dans des cases, on est institutionnalisé. Donc j'espère une chose, c'est que dans 5 ans, on aura encore l'énergie de défendre tous nos projets différents, on aura l'énergie de monter de nouveaux projets qui défendent le vivre ensemble, qui défendent le fait de réinvestir les territoires. Et voilà, si on peut avoir un rêve dans 5 ans, c'est celui que j'avais il y a 10 ans. Avec les tiers-lieux, on va changer les choses et continuons à les changer. Quoi. Voilà.
Est-ce qu'on enseigne les tiers-lieux à l'école dans 5 ans, ou est-ce que des écoles sont des tiers-lieux ?
Moi, je pense qu'enseigner les tiers-lieux... J'ai participé il y a 20 ans à la structuration professionnelle du monde de la musique et des musiques actuelles. On a créé des masters, on a créé des licences. Et aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a que des professionnels. Hein, mon petit chiffre favori qui est là-bas, Fabrice. Il faut effectivement former à
au
la
CP,
gestion des lieux.
Au CP, je pense. Hein.
Non, non, mais il faut former les gens à une citoyenneté active. Et la citoyenneté active, ce n'est pas des diplômes. C'est du vivre ensemble, c'est de la transmission, c'est ce qu'on fait dans nos tiers-lieux, c'est de l'éducation populaire. Ça n'empêcherait pas qu'il faudrait avoir des gens responsable en capacité de gérer des lieux, de suivre des budgets et d'aller chercher des sous et de gérer des entreprises. Mais ça, il y a déjà des formations. Voilà. Hein.
Merci. Alors, je vais demander à toutes les personnes qui viennent ici, hein, venez, hein, vous venez, vous prenez le micro à tour de rôle, de dire qui elles sont, super rapidement, hein, non tiers-lieu, comme ça un peu on vous situe, on peut venir aller discuter avec vous après, aussi à la suite. Je t'en prie.
Donc Aurélien Denas de A plus c'est mieux, le réseau, un des réseaux franciliens, et l'autre réseau à Malakoff, et aussi à l'ANTL. Pour moi, il y a un sujet qui a été un peu traité ici, mais... au-delà de la question de nos publics, c'est aussi la question du prendre soin de nos travailleurs, puisqu'on dans le dernière enquête, je crois qu'on était 6500 dans les tiers-lieux, et en fait le risque de devenir un sous-service public où on est un peu isolé chacun dans notre coin, on est des microstructures sur nos territoires, on n'a pas de capacité de mutualisation, on va dire à la bonne échelle, et y a un début d'amorçage avec les réseaux régionaux. Là on sort d'un atelier sur les CAE et les tiers-lieux, les coopératives d'activité d'emploi et les tiers-lieux, et ça pose la question de cranter. C'est un verbe que j'ai appris dernièrement, de cranter le sujet des coopérations et des coopératives dans notre mouvement des tiers-lieux, parce qu'on aura beau regarder vers en haut, vers l'État qui nous donne de l'argent, c'est très utile pour aller vers les publics précaires et vers certaines typologies de publics. Il y a un enjeu pour nous aussi de nous organiser collectivement, d'avoir des vrais niveaux de mutualisation, et donc de penser que on développe nos marques sur nos territoires, c'est super, mais essayons aussi d'imaginer des coopérations entre nous, et particulièrement pour améliorer le bien-être et peut-être le système économique des individus qui travaillent, qui contribuent à nos tiers-lieux.
Et c'est comment les coopérations dans 5 ans alors ? Ça marche comment ?
Ça marche avec des coopératives à différentes échelles, on en parlait, à l'échelle départementale, régionale ou autre, qui accompagneraient des projets de tiers-lieux avec des contrats CAP, pourquoi pas, pour ceux qui connaissent, et qui garderaient les travailleurs au sein de cette coopérative à une échelle mutualisante, mais avec des organisations associatives, SAS ou autres, à l'échelle territoriale. Et on aurait une dissociation de la fonction travail et politique, ce qui permettrait vraiment enfin d'avoir des organisations collectives dans lesquelles on s'engage, on s'investisse, plutôt que développer chacun notre petite structure à 5-6 salariés, et donc de fait très en danger et très précarisé.
Merci. Je vais te passer la parole, vas-y.
Je vais me mettre là parce que moi je parle.
Venez, qui prend la suite ?
Voilà. Ouais, Seb, donc Isabelle, moi je suis cofondatrice d'un tiers-lieu qui s'appelle le Lab 01, mais je veux parler là en mon nom propre plutôt, par rapport à ce que j'ai vu. Et pour moi, dans 5 ans, en fait, on va avoir, peut-être que ça sera pendant un tout petit peu plus longtemps, mais en fait, on va avoir inventé des outils pour prendre soin les uns des autres, pour faire toutes ces choses dont on parle, mais on aura vraiment inclus le vivant dedans. C'est-à-dire tous les vivants. C'est les sols, c'est les vers de terre, c'est tout ce qui fait qu'on arrive à exister aujourd'hui, et on fera tiers-lieu avec ce vivant-là. Et ce sera, on va reconnaître les contributions collectives des gens dans les tiers-lieux, mais on va aussi reconnaître ces contributions collectives de tout ce qui fait qu'on arrive à exister. Et donc on fera vraiment tiers-lieu avec l'ensemble des vivants dans 5 ans. Et on aura aussi un peu éliminé le jargon et les définitions qui font que ça limite beaucoup.
On aura trouvé des nouveaux mots dans 5 ans pour se définir ou pour parler, peut-être ?
Potentiellement. Ou des chansons ou d'autres choses.
Ah oui,
et on aura un revenu universel de contribution collective.
Ouais.
C'est une idée. C'est le roucoucou !
Seb.
Ok.
Merci.
Oui, donc Sébastien de l'Association nationale des tiers-lieux et de la Compagnie des tiers-lieux, le réseau des Hauts-de-France. Dans 5 ans, on pourrait faire un tableau un peu sombre aussi de ce qui pourrait nous arriver. J'ai pas envie de faire ça au moment de la clôture de l'événement, mais le risque, c'est qu'on soit plus aussi innovant que ce qu'on l'est aujourd'hui. C'est que quand on passe dans les différents ateliers, quand on voit la qualité technique et des échanges et des aspirations qu'il y a, c'est juste bluffant. Et moi, j'espère que dans 5 ans, on en sera encore là. Donc, espérons. Et je pense que une des façons d'y arriver, c'est de faire en sorte que on crée pas trop de strates intermédiaires, de méta-organisations qui alourdissent tout ça, mais que ce soit fluide entre nous. Et donc il faut que les tiers-lieux aussi s'occupent des réseaux, et qu'il n'y ait pas d'un côté les tiers-lieux et de l'autre côté les réseaux, sinon ça ne marchera pas. Et l'une des solutions pour que ça marche, c'est les modèles distribués, c'est la co-rémunération, c'est les gouvernances horizontales, et j'espère que dans 5 ans, on aura trouvé des clés qui nous permettent d'avancer super vite là-dessus et qu'on ne se posera même plus la question en fait. Voilà.
Vas-y. Claire-Marie.
Alors bonjour Claire-Marie de l'écosystème des communs de Lille. Et donc ouais, je suis super contente de ce que vient de dire Sébastien et je pensais rebondir sur ce que a dit Aurélien et donc je vais aussi rebondir sur ce que dit Sébastien. Moi ma conviction c'est que pour que dans 5 ans ce soit toujours sympa de se revendiquer des tiers-lieux, ce soit toujours sympa d'être dans les tiers-lieux, etc. Pour qu'il y ait des ressources mutualisées, pour qu'il y ait de la vraie collaboration, il faut être attentif à ce que tous ces financements soient bien fléchés de temps en temps sur des ressources en commun et non pas que sur des structures. Et je pense que si on essaie de changer ce paradigme-là, de flécher des financements sur des communs, des ressources, alors là, cette distribution dont parlait Sébastien, etc., ça deviendra envisageable. Voilà.
Merci.
Magali, de la métropole européenne de Lille. Moi, j'aimerais que dans 5 ans, tous les citoyens aient poussé la porte d'un tiers-lieu, soient rentrés et aient compris ce que c'est qu'un tiers-lieu dans les valeurs que vous portez ici tous ensemble. Et pourquoi pas en commençant par une signalétique partagée à l'échelle nationale pour qu'on comprenne ce qu'on y fait.
Merci.
Moi, je me souviens des mots d'ouverture de Patrick. Tu portais une ambition de transformation sociale, de dire on est des grands mouvements.
Tu nous dis qui tu es ?
Oui, pardon. Jérôme, du coup, un des membres du collège du réseau régional des tiers-lieux Grand Est et coordinateur d'un tiers-lieu à Strasbourg qui s'appelle la Cybergrange. Et du coup, tu portais ce message d'ambition. Je trouve qu'il est formidable. Je pense qu'une des choses qu'on doit conserver dans 5 ans, c'est l'humilité qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. L'humilité qui est de dire que dans les tiers-lieux, nous sommes des facilitateurs et pas des experts, et qu'il ne faut pas qu'on se trompe, qu'il ne faut pas qu'on pense qu'on devient des experts, qu'on porte une voix plus légitime que les autres, qu'il faut qu'on se souvienne qu'on est au milieu d'un monde et d'une société qui est traversée d'expertises diverses et variées, et qu'on continue de les intégrer, de dire qu'on ne sait pas et que ce qu'on sait faire, c'est poser des questions, les ouvrir, les partager avec d'autres, construire avec d'autres, et que ça, c'est hyper important, il faut qu'on le garde. Alors même qu'on se retrouve dans le besoin de construire des postures d'expertise, de sachant qu'il faut qu'on dise des choses et qu'on les articule, il faut aussi qu'on continue à dire qu'on ne sait pas tout et qu'on y va à tâtons, qu'un de nos modes de faire, c'est l'expérimentation, le droit à l'essai, le droit à l'erreur, et ça me paraît hyper important, et j'espère que dans 5 ans on aura gardé ça et qu'on continuera à mettre du bazar partout en se disant qu'on sait pas, mais qu'il vaut mieux tester que de ne rien faire.
Merci.
Bonjour, donc moi c'est Vincent Grenet du Hangar Zéro, donc je fais également partie du réseau Tilino, donc tiers lieu normand, et je crois qu'il y en a pas mal dans la salle, donc peut-être que les lieux normands peuvent crier aussi faire tiers lieu. Pour ceux qui sont dans la salle, j'en vois de ci et là. Voilà. Et donc, en tout cas, moi, mon ambition dans 5 ans, c'est que les lieux qui font tiers-lieu aujourd'hui soient peut-être du coup effacés du mot faire tiers-lieu, puisque ce serait devenu finalement l'essence même du système, puisqu'on aurait enfin réussi à casser tous les codes et à faire en sorte que ce soit devenu une vraie économie et que ce soit devenu l'avenir de notre économie. Dans l'autre ambition aussi que je porte, c'est réemploi sur les deux boucles d'économie circulaire que l'on affectionne particulièrement, en tout cas au hangar. C'est l'économie circulaire du bâti et l'économie circulaire de l'alimentation, du vivant, au travers de la permaculture, puisque c'est quand même les bases et c'est quand même de toute manière les besoins primaires dont on a besoin. Un toit, s'alimenter, donc tout ça c'est quand même des besoins hyper primaires. Et en effet, que l'ensemble des lieux qui font tiers-lieu aujourd'hui soient devenus des acteurs essentiels, puisque dans réemploi, il y a emploi, Je voulais rebondir sur le revenu universel de contribution, puisqu'en effet, aujourd'hui, je pense que c'est sous-estimé, mais en tout cas, je crois qu'on peut, et je ne sais pas si on doit l'afficher, mais c'est quand même une réalité des lieux qui font tiers-lieux aujourd'hui, c'est que de nombreuses personnes d'entre nous sont en capacité de conduire ces tiers-lieux parce qu'ils sont soutenus par des dispositifs tels que l'aide au retour à l'emploi, mais qui n'est pas valorisé aujourd'hui, alors qu'il y a une transmission des compétences, une mise en application de ces compétences transversales pour ces lieux au service du territoire. C'est quand même une enveloppe de 130 millions d'euros, je crois, ces dernières années. C'est quand même pas rien. Donc ça veut dire que dans ce pays, les chômeurs ont quand même un avenir si on leur donne cette chance et si on les valorise.
Merci.
Génie de la région Nouvelle-Aquitaine. Moi, j'aimerais que dans 5 ans, les tiers-lieux, on permette à tous les travailleurs de venir bosser dans les tiers-lieux et qu'il y ait une prise en charge, en fait, de ce droit de pouvoir travailler dans un tiers-lieu, que les employeurs y contribuent également. Il y a beaucoup d'institutions ici, il y a beaucoup d'aides publiques, mais qu'il y ait une prise en charge du privé. Et j'aimerais qu'on fasse avancer cette idée du chèque tiers-lieu, qui a été remontée, qui est reprise par Terra Nova récemment dans des articles, et que cette prise en charge soit partagée par également les employeurs, ce droit, et donc qu'on ouvre vraiment à tous les télétravailleurs de l'ombre, à tous les indépendants qui bossent chez eux et qui n'en peuvent plus. Ces nouvelles formes d'organisation du travail, dans 5 ans, elles vont se confirmer, et qu'on puisse permettre à ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas bosser en tiers-lieu de le pouvoir par cette prise en charge des employeurs. Merci.
Bonjour à toutes et à tous, Michaela de la Compagnie des Tiers-Lieux. Je vous partage quelque chose qui a été partagé hier dans mon atelier sur les communs des féminismes. Et l'idée, c'était de garder une certaine forme de radicalité, de militantisme, d'engagement, et de ne pas perdre ça malgré les financements, les difficultés et tout ce qu'on veut. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'avoir ce côté militant, peu importe, ce qui nous arrive. Et autre chose que je souhaite du coup défendre aussi, c'est l'ouverture. Dans 5 ans, ne pas s'enfermer sur nous, rester entre nous et de penser que ce qu'on fait c'est génial. Ça l'est, mais bon, quand on ouvre, c'est bien aussi, on voit d'autres perspectives et c'est chouette d'être
donc
avec
donc dans 5 ans, on se rend compte beaucoup plus et on fait beaucoup plus de choses entre nous.
Non, justement, non, qu'on reste non, pas entre qu'entre
tiers-lieux.
Nous.
Entre tiers-lieux, non, ouais, ouais. Plus largement,
c'est
ça, ouais. Ton
souhait. Oui, tout à fait, parce que l'idée, c'est de ne pas s'enfermer sur soi, et au bout d'un moment, quand on n'a pas des gens qui viennent nous mettre d'autres perspectives, on pense que c'est bon, on est arrivé là où il faut qu'on y soit, ou en tout cas, on ne se remet plus en question, remise en question, si vous voulez, constante et permanente.
Ok, super, merci. Okay.
Bonjour tout le monde, Guillaume de la compagnie des tiers-lieux, très stressé par cette prise de parole. J'ai assisté à plein d'ateliers pendant 2 jours, je suis même presque fatigué en fait de tout ça, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Et il y a des désaccords en fait, on n'est pas tous d'accord et j'ai l'impression qu'on a un peu du mal à se dire. Bon, moi j'ai observé, je viens du milieu de l'ESS pendant 15 ans, etc. Et ça s'est quand même structuré un peu tard. Dans 5 ans, je pense qu'il faudrait des mouvements un peu clairs, si je prends des comparaisons, de la même façon qu'on a eu le MOVE ou French Impact, mais des tiers-lieux qui sont plutôt prêts à tiers-lieuiser l'économie, le modèle dominant, etc., mais quelque chose où on est plutôt dans l'infusion de que ça existe. Et puis de la même façon qu'il y a eu le mouvement de l'économie solidaire, je ne sais pas si Josette est encore là, mais des tiers-lieux qui sont plus dans des perspectives de transformation ou plus de militantisme. J'ai l'impression et que ces tiers-lieux-là, et que ces mouvements discutent au sein d'un mouvement central qui peut être l'Association nationale des tiers-lieux, mais c'est un peu sain, je trouve, de pouvoir assumer des différences qui, pour l'instant, me semblent un petit peu en dessous et un peu inavouées. Voilà.
Donc dans 5 ans, on est toujours très 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 diverses et c'est bien comme ça.
Oui, mais c'est clair.
Oui, vas-y.
Bonjour, je suis Valentine, je suis la directrice du Grain de la Vallée, qui est un tiers-lieu à Marseille. C'est un groupe de recherche autour de l'art, des individus et de la nature. Je suis également administratrice du réseau Sud Tiers-lieu, donc vive le Sud. En fait, comme disait Patrick le premier jour, les tiers-lieux sont des laboratoires d'avenir. On est aujourd'hui là où on a pensé nos projets il y a 5 ans, et en fait, aujourd'hui, on est déjà dans 5 ans. On a une capacité d'innovation, de création, on s'adapte en permanence. On fait société au quotidien et on innove. La crise du Covid nous l'a montré aussi, que dans nos lieux, on a été capable de nous adapter, de réagir, d'interagir. Et du coup, tout ce qu'on construit aujourd'hui, c'est cet idéal de société vers lequel on tend pour demain.
Merci. Vas-y.
Oui, bonjour, Catherine Béchecourt-Dimaria, je suis secrétaire générale du réseau national des ressourceries et recycleries et membre également du CA de la NTL. Moi, je voulais évoquer les quatre scénarios de l'ADEME pour atteindre la neutralité carbone en 2050, que vous connaissez peut-être. J'ai eu l'occasion de les connaître au CESE. Il y en a quatre très rapidement. Le premier, frugalité, contrainte, low-tech, gouvernance partagée, localisme. Le deuxième, c'est coopération territoriale, entraide. Troisième, technologie verte. Et le quatrième, le scénario dit réparateur, qui, comme son nom ne l'indique pas, est le scénario le plus destructeur, puisque c'est continuer de faire ce qu'on fait maintenant, en espérant trouver des solutions pour réparer. Voilà. Au moment où je vous parle, et si j'ai bien compris, l'État n'a pas fait son choix, donc on ne sait pas trop lequel des quatre est choisi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est sur la trajectoire du numéro 4, en fait. Et en tout cas, ce qui est très clair, c'est que dans le scénario 1 et 2, qui sont les plus désirables, les acteurs de terrain, les tiers-lieux, ont un rôle majeur à jouer, c'est-à-dire entraide, mutualisation, circuit court, gouvernance partagée, enfin, c'est tout ce qu'on fait, quoi. Donc, moi, dans 5 ans, j'espère que l'État aura fait son choix, espérons, parce que 2050, ça arrive vite, et qu'on reconnaîtra que nos structures ont un rôle capital à jouer pour y arriver. Ce qui, au passage, permettrait de régler les problèmes de survie financière dont on parlait précédemment. Voilà. Et puis, autre souhait qui a été déjà évoqué, mais je plus sois, ce que je trouve assez génial dans ce que je constate ici, c'est la diversité des opinions et des points de vue. C'est génial, quoi. Il faut que ça continue, parce que ces tensions-là sont vraiment... super, voilà. Donc ça, il faut vraiment continuer.
Merci. Vas-y.
Bonjour, moi je suis Amina Rouillet-Dorfeuille, donc je suis là avec vous depuis 3 jours maintenant. Je suis venue par moi-même parce qu'il y a un vent qui m'a amenée jusqu'ici. Je suis un pur produit de l'éducation populaire. Je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans et puis j'ai été baignée dans l'éducation populaire, et ce qui m'a permis finalement d'être une citoyenne engagée dans plusieurs mouvements d'éduc-pop. Et moi, dans 5 ans, ce que je souhaiterais, c'est que les tiers-lieux se réfèrent aussi de l'éducation populaire dans sa noblesse qui est... finalement mettre au cœur de nos responsabilités, nos actions, les personnes et toutes les personnes. Attention à la question de l'altérité, attention à la question de l'interculturalité et attention à la question des différents niveaux sociaux, parce que quand je regarde autour de moi, c'est une question que je me pose aussi. Qui est là et d'où il vient et où il se situe d'un point de vue socio-économique aussi et socio-intellectuel et culturel aussi. Donc voilà, moi j'aimerais que dans 5 ans on se nourrisse de cette éducation populaire là. Si je suis là aussi, c'est parce que je me nourris plus aussi bien dans ces milieux là aujourd'hui, parce qu'ils sont en peine. Et je crois que c'est Aurélien tout à l'heure qui disait qu'il fallait faire attention à ce que la question du financement et de l'argent ne prenne pas un pas sur la question du politique et de la transformation sociale qu'on doit opérer à travers ces tiers-lieux. Mais en même temps, je suis très heureuse aussi que les tiers-lieux se posent la question économique d'un point de vue, on va dire, autonomie économique, parce que malheureusement... Dans les lieux, en tout cas d'éducation populaire dans lesquels j'ai pu œuvrer, on était arrivé à un système où on courait après la recherche de financement, la recherche de fonds, et finalement on avait perdu un peu le sens de l'action politique et sociale. Voilà, donc moi dans 5 ans, c'est ce que j'aimerais, c'est que on fasse preuve de regarder le passé et en même temps de réintégrer tout ce champ de l'éducation populaire d'un point de vue des lieux, d'un point de vue des personnes, et de ne pas créer des échelles entre ces différents mondes. Voilà, donc je me sens passeur d'avenir et j'aimerais bien pouvoir être parmi vous dans ce rôle-là. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Marie-Laure.
Bonjour, moi je suis Marie-Laure Cuvelier. Je suis là comme directrice du GIP par intérim, mais je suis aussi élue régionale en Nouvelle-Aquitaine et praticienne de tiers-lieu depuis 12 ans dans la région bordelaise. Donc, je kiffe de voir toutes ces femmes s'autoriser à venir parler dans une agora. Comme on est dans les applaudissements, je voudrais vraiment remercier un gros big up à Colline Fouquet et Rémi Cellier, sans qui on ne serait pas non plus ici, qui portent ça. Voilà. Et après, Catherine a parlé de futur désirable, et si on n'est pas là pour l'inventer ici, franchement, on aura tout raté. Donc, dans 5 ans, les tiers-lieux, moi j'ai eu des déclics dans mon parcours, et je pense que ici c'est un endroit où il peut y avoir des déclics. C'est fait pour ça, même ces événements. Moi, un des déclics, ça a été sur France Inter un matin, désolé, CSP plus de gauche, avec Geoffroy de la Gannerie au micro. Qui a dit que le système, il était plein de gens qui ne nous ressemblaient pas et que si on voulait qu'il change, il fallait qu'on l'intègre. Et donc, moi, je suis devenue élue régionale justement pour faire le poil à gratter dans le système. C'est dur, il faut de l'énergie, mais je pense que plus il y aura de praticiens des tiers-lieux qui intégreront ce système-là, les collectivités, en tant que technicien, mais en tant qu'élu, je pense que c'est plus important, et plus je pense que les choses avanceront dans le bon sens. Donc, dans 5 ans, je veux plein de praticiens des tiers-lieux élus, municipal, départemental, régional, national.
Merci.
Bonjour, moi je m'appelle Lise Dary, je suis chargée de projet au WIP tiers-lieu à Colombelles en Normandie. Je suis également contributrice du réseau des tiers-lieux normands Tilino. Et merci à tout le monde pour tous les échanges des 3 jours, c'est hyper hyper riche. Moi j'ai pris plein de matières hier, avant-hier, et là je me dis waouh, il y a tellement de choses avec lesquelles je ressors. Mais là quand je me pose la question... Où est-ce que j'aurais envie de voir les tiers-lieux dans 5 ans? Mais en fait, j'ai envie de les voir partout. Parce que les tiers-lieux, c'est faire société ensemble. Et qu'en fait, on a envie de les voir là où on ne les attend pas, déjà. On va être dans les petits interstices. On va être ce poil à gratter, comme disait Marie-Laure. On va être dans les petites places. On va être dans la surprise, parce qu'on est dans cette capacité à innover. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont rappelé aussi. On a envie d'aller toujours plus loin, de se poser toujours les questions. Et d'être dans ces formes d'innovation. Donc on va aller dans les petites places, on va aller dans les petites interstices, faire la surprise, mais on va aussi aller sur la grande place. Moi j'ai envie qu'on soit là pour porter notre voix, j'ai envie qu'on soit là pour dire, pour valoriser ce qu'on fait. On a parlé d'outils de valorisation, de documentation énormément, et on a besoin de dire, parce qu'il se passe des choses tellement belles et chouettes qu'il faut qu'on le fasse savoir. Et donc on va être sur la petite place, on va être dans la surprise, mais on va aussi être sur cette grande place pour prendre notre place et pour se faire connaître, pour valoriser tout ce qu'on fait, parce qu'on a toute notre légitimité à y être. Donc moi j'ai envie qu'on soit dans tous ces endroits à la fois, j'ai envie qu'on parle fort, qu'on se fasse entendre, et j'ai aussi envie qu'on reste encore un peu à l'écoute, toujours à l'écoute, et que le faire société ensemble, faire tiers-lieu, c'est aussi être dans le désaccord, c'est aussi être dans le débat permanent. Et donc c'est pas parce qu'on parle fort qu'on s'arrêtera d'écouter les autres, au contraire. Et justement c'est comme ça qu'on va faire tous ensemble. Donc on est dans la petite place, dans la grande place, et on échange tous ensemble. C'est ça pour moi.
Bravo.
Bonjour à tous et à toutes, merci. Fanny Côté, je suis doctorante. Je suis un peu fatiguée parce que je me suis fait le marathon foncier depuis 3 jours à France Tiers-lieux. Merci à tous ceux qui ont fait le marathon foncier. Moi, mon souhait, c'est que dans 5 ans, chaque lieu, qu'il fasse tiers-lieu ou non, mais qui accueille des acteurs de l'ESS, des associations, des acteurs culturels, des acteurs qui n'ont plus les capacités de se payer les moyens d'avoir un local dans le marché immobilier classique qui est devenu asphyxiant, puissent trouver des solutions d'accueil, que les collectivités puissent soutenir à toute échelle de collectivité, que ce soit les villes, les com-com, les régions, les départements, peu importe, les métropoles, mais qu'on ait trouvé des solutions pour qu'il n'y ait plus aucun lieu dehors ou qui se pose la question de est-ce qu'il va être dans la précarité, il va devoir quitter ses lieux le mois prochain, quoi.
Bon, merci.
Bonjour à tous.
Donc, je suis Noémie du Germoire, en Bricourt, et donc dans les Hauts-de-France, et aussi administratrice à la compagnie des tiers-lieux. Alors, pour moi, dans un tiers-lieu, dans 5 ans, on y mange ensemble. Et donc, on va produire des légumes ensemble et on va les manger ensemble. Pourquoi ? Parce que ça nous réunit, en fait. On le voit ici. On est là autour de café, autour de bière, autour de la bouffe. Et donc, en fait, c'est quand même un élément fondateur de nos lieux. Donc, ne l'oublions pas. On va manger du bon, on va manger du local, on va manger du fait par nous et on va apprendre aux gens qui ne savent pas faire à faire. Donc, ce sera vraiment des lieux où on va s'occuper de ça. Et la deuxième chose... Ce sera aussi des lieux où on va accompagner finalement, alors nous, hein, on aura fait un travail sur nous-mêmes, mais ce sera des lieux de transition intérieure. C'est-à-dire que travailler ensemble, ce n'est pas naturel. Savoir travailler avec les gens, être dans une affirmation juste de soi, ce n'est pas toujours évident. Et on le voit bien, ok, il y a les sujets des sous hein, dans les lieux, mais il y a le putain de facteur humain. Donc les tiers-lieux, ce sera le lieu où on va traiter du putain de facteur humain.
Alors, moi, je pense, dans 5 ans, j'aimerais bien qu'on n'entende plus parler de tiers-lieux transitoires. Parce que j'ai l'impression qu'on est rentré un peu par cette porte-là, parce que c'est tellement dur d'accéder à des terrains qu'on a fini par monter des tiers-lieux pour 1, 2 ou 3 ans. Et qu'il y en a aujourd'hui beaucoup de ceux-là qui n'ont pas réussi à se pérenniser, qui étaient transitoires. Et régulièrement, on subit un peu cette image de dire vous êtes un tiers-lieu, donc vous êtes là de manière temporaire. Et je pense qu'on pourrait un petit peu plus lutter contre ça collectivement sur le fait que bah non, en fait, c'est pas parce qu'on a un tiers-lieu et qu'on occupe un foncier qui ne nous est pas accessible en termes économiques qu'on peut pas avoir l'ambition de se pérenniser sur le territoire. Et ça rejoint la deuxième chose que j'espère qu'il va se passer dans 5 ans, c'est que les collectivités, les citoyens auront compris que le débat public, l'échange humain ne se passe pas par écran interposé. Ne se passe pas par micro interposé, mais qui se passe dans la vraie vie lorsque les gens se rencontrent. Comme ce fishbowl qui est en train de se passer maintenant, pour moi, c'est juste une expérience exceptionnelle parce que les lieux de débat public, je ne sais pas où ils sont. Je ne sais vraiment pas où ils sont. Et du coup, ben, les tiers-lieux devraient, je l'ai déjà dit hier, absorber une nouvelle fonction régalienne de l'État qui, je pense, n'est pas prise en charge, qui est d'organiser le débat public dans la démocratie. Et voilà, on pourrait le faire.
Salut, moi je suis en service civique et avec le café, la fatigue et l'appréhension, c'est, j'ai le cœur qui bat un peu fort, mais je vais essayer d'être concis. Je dis que je suis en service civique pour dire que j'ai peut-être pas de la bouteille de la même manière que toutes les personnes qui parlent ici, mais j'ai quand même un souhait pour ce que je vois et ce que j'entends par tiers-lieu. Pour dans 5 ans et même pour le plus vite possible quoi, c'est que ce soit des lieux qui assument explicitement et qui en fait qu'on en parle de manière plus frontale, qui assument explicitement leur rôle politique et pas seulement un rôle qui passe par des pratiques mais qui passe aussi par tout un narratif politique. Et que ce narratif politique il soit beaucoup plus engagé que ce que j'ai entendu pendant ces 3 jours, que ce que j'entends autour de moi. Parce que je pense que si on veut se targuer d'être les piliers du monde de demain, le monde de demain, il ne se fera pas à petits coups. Parce qu'on est dans des urgences qui sont d'une gravité immense. Et dont on n'a pas énormément parlé. Hier, c'était une journée de grève générale. On n'en a pas parlé du tout de la journée. Ça m'a un peu choqué. Et c'est, j'ai voulu trouver dans les tiers-lieux, assez naïvement, quand j'y suis arrivé, une sorte de forme un peu institutionnalisée de ZAD ou de squat ou de choses comme ça. Et il y en a un peu, il y en a quelques formes. Et il y a toute une diversité de formes de tiers-lieux et c'est très bien, mais je pense qu'il y a besoin aussi de porter un discours et une bannière politique militante très engagée et même si beaucoup de personnes disent qu'effectivement, et à très juste titre, qu'il y a des risques de fractures, de brusques, etc. Les urgences sont trop graves, trop grandes, pour qu'on continue de s'adapter au système qui détruit la vie, détruit les humains, détruit le monde, etc.
Voilà. Merci. Alors, on va... Oui, venez. On va malheureusement, moi je continuerai bien 3 heures, hein, mais on va devoir s'arrêter, je pense, dans 5 minutes à peu près. Donc voilà, bah, bienvenue, on va prendre 2 interventions, et puis bah, c'est génial, merci à tous d'être venus parler. On accueillera une journaliste qui est là avec nous depuis ces 2 jours, et qui, elle, fera aussi son propre rapport d'étonnement. Vas-y.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte, je suis contributrice à la compagnie des tiers-lieux et aussi administratrice. Moi, en fait, j'ai pas envie de beaucoup parler, j'adhère à beaucoup de propositions sur où sont les tiers-lieux dans 5 ans. J'ai juste un propos qui est dans 5 ans, ça se fait maintenant. On parle beaucoup de faire tous ensemble, toutes ensemble. Et j'aimerais bien faire un petit exercice collectif pour illustrer mon propos. Est-ce que vous êtes OK? Ouais? Ça dure même pas 1 minute. Voilà, je vais me lever, je vais vous demander de rapprocher vos mains comme si vous alliez applaudir. Vous les mettez très proches. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, toutes et tous ensemble, on va montrer qu'on fait ensemble. Donc on va claquer très fort pour montrer qu'on est un super collectif et qu'on peut nous entendre, qu'on va nous entendre. Vous êtes prêts et prêtes? Ouais. Donc je compte jusqu'à 3. Vous comptez à 3. 1, 2... 3. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit 3 après avoir claqué des mains. Parce que tout ce qu'on vient de se dire, toutes ces belles paroles, elles sont géniales. Mais si on n'agit pas au lieu de parler, rien ne se passera.
Merci.
Amande, moulin de la Grange des Roues à Sorgues, à côté d'Avignon, manufacture de proximité. Mon vœu et mon souhait pour dans 5 ans, j'ai une pensée pour les métallos, j'ai une pensée pour les paysans sans terre qui se sont réappropriés leur outil de travail dans des moments de crise sociale, économique, etc. et des choses qui peuvent se préparer pour nous aussi. Et mon plus grand souhait, en fait, c'est que dans chaque tiers-lieu, on puisse mettre en place des outils de production qui soient suffisamment viables pour produire une économie saine, une économie fraternelle au service de toutes les aspirations sociales, culturelles et intégratives dans le monde du travail, mais qu'enfin aussi on s'indépendantise des financements publics qui ne sont pas certains en fait dans les domaines qu'on porte, et voilà, et qu'on soit aussi des acteurs finalement majeurs aussi économiquement vis-à-vis des institutions politiques, et je pense que c'est vraiment possible. Parce que le sens du travail, on l'a tous, et c'est quelque chose de, voilà, qui a une immense valeur.
Merci. Voilà. Et la dernière intervention. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alain, d'un bébé tiers-lieu qui est en Haute-Marne, territoire ultra-rural. Si je vous demande où c'est, la moitié d'entre vous ne me mettront pas sur la carte. On est un bébé tiers-lieu qui s'appelle l'Abricot, en 2 mots, et on espère être là encore dans 5 ans, peut-être pour pouvoir animer des choses aussi, pourquoi pas, rêvons un peu. Dans 5 ans, ce que j'aurais aimé entendre, et ce que j'ai pas entendu ces 3 jours, à propos de la question du foncier notamment, c'est la prise en compte de la problématique de l'habitat léger. De l'habitat léger, c'est une des réponses aux problèmes qui nous touchent. Hein. C'est-à-dire, en gros, en bout de 3 mois, on est viré si on a un habitat léger quelque part. La problématique est relativement énorme dans le milieu rural, où il y a une pression énorme de la part de la SAFER, pour ne pas le nommer. Hein.
Alors, si tu peux nous dire rapidement, dans 5 ans, alors il s'est passé quoi ?
Dans 5 ans, j'aimerais que la question, effectivement, de l'habitat léger soit prise en compte pour la création des tiers-lieux.
Merci beaucoup.
Moi, c'est juste, c'est pas forcément dans le cadre de l'atelier, mais du coup, pour prolonger ça, je me dis, je suis d'accord avec ce qui a été dit, ça se fait maintenant, et du coup, l'ANCT nous a dit hier, on est OK de parler à d'autres intervenants, enfin d'avoir d'autres interlocutions. Par exemple, un problème concret, c'est politiquement, c'est les appels à projets dans les tiers-lieux. Est-ce que vous êtes chaud d'ouvrir une page ou un document, les contre-appels à projets, pour le transmettre à l'ANCT maintenant? Qu'est-ce qu'on fait concrètement là aujourd'hui? Et du coup, là, l'espace documentation, c'est aussi l'endroit où il y a un document partagé pour essayer de faire une synthèse de l'événement. Du coup, je peux vous inviter à aller là-bas aussi. Moi, au-delà de me penser à qu'est-ce qu'on fait dans 5 ans, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, pas demain, pas une fois qu'on est retrouvé dans le lieu, maintenant quand on est à 300 et qu'il nous reste encore 4 heures à passer, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas repartir juste chez nous et attendre 5 ans, quoi.
Ouais, on va tous... On s'assure tous d'aller contribuer un peu dans cet espace avant de partir pour alimenter justement les actions de tout le monde. Mais je vais te laisser la parole pour que tu nous dises un peu comment tu as vécu ces journées et qu'est-ce qui te frappe.
Alors, merci. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Elsa Ferreira et je suis journaliste à Mercury. Et donc, il m'a été laissé le grand honneur, mais aussi la lourde tâche, de rédiger un rapport d'étonnement. Un grand honneur, car vous pouvez être fiers du travail accompli durant ces 2 jours et demi, très dense, 600 personnes et 100 tables rondes, groupes de travail et ateliers. Vous en étiez à la fois les participants et les auteurs, les co-constructeurs donc, et c'est une sacrée prouesse que vous avez réalisée. Si comme il a été dit, un tiers-lieu c'est ces gens, alors vous avez fait tiers-lieu à merveille. Si un tiers-lieu est aussi un lieu, alors il faut le dire, il est pas mal non plus. Une lourde tâche, car faire un rapport d'étonnement, c'est irrémédiablement simplifier la complexité. Cette fameuse complexité qu'Akira Lavolt a évoquée dès l'introduction et qui a irradié tout l'événement. Complexité des courants divergents à l'œuvre dans ce mouvement, complexité dans la forme multiple et changeante des acteurs qui le composent, complexité dans l'ambivalence des envies et des attentes. Être autonome, oui, mais à quel prix? Être soutenu, oui, mais en échange de quoi? Je vais donc vous raconter mon étonnement, ou plutôt mon plaisir. Quand j'ai commencé à couvrir les tiers-lieux, en 2014 donc, je découvrais un mouvement inventif, créatif, volontaire, politique et surtout résolument utile, qui m'a donné l'espoir qu'un autre futur est possible. Quand on est journaliste et qu'on était plutôt destiné à chroniquer la dislocation réelle ou fantasmée de la société et de la planète, croyez-moi, ça vaut de l'or. Ce mouvement était fort, mais il était aussi presque tout autant précaire, tenu à bout de bras par des acteurs qui y croyaient tellement qu'ils étaient prêts à y laisser quelques plumes. Un bel élan, mais qui ne constitue pas une dynamique durable, vous en conviendrez. En passant de lieu en lieu, on découvrait des projets absolument différents, mais on posait inlassablement ces 2 questions. Parlez-vous entre vous? Avez-vous trouvé un business model? Les réponses étaient aussi inlassables que les questions. C'est compliqué. Je vous dis donc mon plaisir de vous voir ici tous réunis pour échanger, en n'oubliant jamais de rappeler que les absents sont plus nombreux encore et qu'il faudra veiller à ne pas parler pour eux. Je vous dis mon plaisir de vous voir parler d'une voix à plusieurs cordes, certes, mais qui s'écoute tout le temps et qui surtout reconnaît l'importance du conflit. Si les tensions et les désaccords consubstantiels à ce mouvement disparaissent, vous avez perdu, avez-vous dit. Si Blida constitue la première pierre d'une parole politique commune, comme le souhaite Patrick Lévy-Vates, alors s'autoriser à ne pas être d'accord, accepter que cette parole sera un compromis et donc parfois parcellaire, est à mon sens une grande victoire. Vous n'êtes pas qu'un, mais vous savez qu'ensemble, vous serez plus fort, qu'ensemble, vous avez toujours été plus fort, et que l'état de la société demande aujourd'hui que des entités à l'individualité propre regardent ce qui les rassemble plutôt que ce qui les éloigne. En ce qui concerne le modèle économique, j'entends que du chemin reste à parcourir. Les salaires sont bas, les journées sont longues, les lieux parfois soumis aux volontés des élus. Mais vous semblez être en bonne voie, co-construire prend du temps, consolider aussi, mais le temps coûte de l'argent. Comment concilier tout ça? En s'appuyant peut-être sur l'ancien, l'existant. En 2014, vous disiez ne pas vouloir réinventer la roue, elle existe déjà. Ainsi, vous justifiez cette obsession de la documentation qui, je remarque avec bonheur, n'a pas faibli.
Cette fois-ci, j'ai entendu parler des arbres, ceux grands et majestueux qui ont mis 300 ans à pousser. Ces piliers, ce sont les lieux d'éducation populaire, les centres sociaux, les MJC, les médiathèques. Des lieux qui avaient été conçus pour le débat et qui se sont fait lentement dévoyer. Vous reconnaissez les précurseurs et vous ne voulez pas connaître le même destin. Là encore, des interconnexions sont sûrement nécessaires. Il y en a déjà, il en faudra peut-être davantage. L'histoire aime beaucoup trop se répéter. Financement, reconnaissance, label. Si vous vous méfiez de ces soutiens trop institutionnels, alors vous en inventerez d'autres. Je vous ai entendu pendant 2 jours parler de statuts, structures juridiques, outils comptables, budget participatif, revenus universels de contribution. Vous savez créer les outils dont vous avez besoin et vous saurez le faire encore. J'ai aussi vu ici des acteurs publics se mettre au centre de l'agora et se prêter à l'exercice pas toujours confortable de la transparence, de l'accessibilité. Comme l'a souligné Marthe Pommier, c'est rare pour un fonctionnaire. En coulisses, j'ai parlé à David Jaïs, haut fonctionnaire qui prône une économie du bien-être pour remplacer la société de consommation et dont les mots sont un écho à votre vision. Peut-être ne sont-ils que des acteurs isolés qui ont compris l'importance du travail ensemble et de proposer un mode d'action différent. Ou peut-être que vos méthodes ont déjà traversé la société civile pour atteindre les coulisses du pouvoir. Faire de la politique en acte, casser les silos. Vous êtes vigilant et exigeant. Vous voulez éviter les effets d'opportunisme, d'être utilisé pour remplacer les services publics qui disparaissent, et vous avez raison. Mais vous êtes aujourd'hui une force qui mérite d'être amplifiée. Comment, pourquoi, avec qui ? À vous de le définir et d'inventer le retentissant plaidoyer de votre révolution silencieuse. Je voudrais dire un dernier mot à l'Association nationale pour les tiers-lieux, France Tiers-lieux, l'ANCT et Blida. Un grand merci pour votre accueil chaleureux, car c'est aussi ça, faire tiers-lieu, ouvrir ses portes à l'autre et mettre en œuvre les conditions pour créer du lien. Mission accomplie.
Merci.
Un grand merci à tous nos partenaires, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la Banque des territoires, la région Grand Est, l'Eurométropole de Metz, le réseau régional des tiers-lieux en Grand Est et le tiers-lieu Blidac qui, par leur soutien, ont rendu possible la réalisation de cette rencontre nationale. Merci également au Media Lab du WIP pour l'enregistrement et la production de ce podcast. Merci pour votre écoute et si vous souhaitez poursuivre les débats, n'hésitez pas à rejoindre l'Association nationale des tiers-lieux.